Certains fardeaux sont trop lourds à porter tout seul. Quand je me trouve dans une telle situation, il est précieux d'avoir un ami, un confident, avec qui je me sente libre de partager ce qui me pèse. Dans le livre de l'Ecclésiaste, on lit « Mieux vaut être à deux que tout seul, et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Oui, mais encore faut-il trouver une bonne personne, la bonne personne à qui se confier. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire confiance à Jésus-Christ, il y avait des sujets qui me tracassaient, mais dont je n'osais pas lui parler de peur de l'offenser. Maintenant, je sais bien combien j'étais ridicule, puisque de toute façon, Dieu sait tout d'avance. Dans un psaume, le roi David écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. » Dieu a les épaules très larges. Il ne considère pas comme une faute quelqu'un qui vient se plaindre à lui. Au contraire, il l'accepte très bien, parce que ce qu'il veut avant tout, c'est établir une relation avec ses créatures, même si elle est parfois houleuse. C'est ainsi qu'il n'a pas fait de reproche à Moïse ou à Job, qui pourtant se sont parfois comportés comme des saules pleureurs. Job a commencé sa longue complainte en maudissant le jour de sa naissance, puis il est allé très loin, il a tapé fort dans ses propos et dans la façon dont il s'est exprimé. Non seulement Dieu a écouté sans broncher, mais après avoir gentiment repris son fidèle serviteur, il a dit aux trois faux amis de Job « Je suis très en colère, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » À l'époque de Malachie, les Israélites mécontents de l'Éternel ne jouent pas carte sur table. Ils ne vont pas se plaindre devant lui avec sincérité de cœur, mais sont animés d'un mauvais esprit, un esprit de rébellion. Ils murmurent entre eux et complotent contre lui en quelque sorte. Dans sa petite épître, Jude parle aussi de sinistres individus qui étaient de la même trempe que les impies de l'époque de Maléchie. Jude écrit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Ils causent des divisions, ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas l'Esprit de Dieu. » Sous le ministère du prophète Ésaïe, certains Israélites étaient déjà comme ceux de l'époque de Malachie. Ils disaient « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? » Mais l'Éternel a rétorqué « Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? » Ensuite, Dieu explique comment l'honorer par un jeûne qu'il agrée. Il dit « Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Celui qui vénère véritablement Dieu dans son cœur l'adore en esprit et en vérité. Il aime sa parole, désire le servir, lui obéir et le louer. Il le révère dans sa personne, reconnaît sa grandeur, son immensité, car, écrit l'apôtre Paul, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Mais ce n'est pas du tout ainsi que les rebelles d'antan et d'aujourd'hui considèrent Dieu. Je continue le texte de Malachie. « Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel, et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi ?» Verset 13. Comme je l'ai déjà dit, ici commence le sixième et dernier oracle de Malachie. Les mauvais éléments du peuple persistent à lasser l'Éternel par leurs discours et apposent leur cachet sur ce qu'ils ont déjà dit, en l'occurrence, « Quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel, il a plaisir à ces gens-là. » Ou bien encore, « Où est le Dieu de la justice ?» Ils prétendent toujours qu'en tant qu'agent moral, Dieu dirige très mal le cours de ce monde. Et comme précédemment, ces impies sont totalement insensibles à leurs péchés ou feignent de l'être. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils tiennent des paroles méprisantes à l'égard de l'Éternel. Alors ils jouent la comédie et demandent « Qui ça ? Nous ? Mais qu'est-ce qu'on a dit de mal ?» Je continue le texte de Malachie. « Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu, et qu'avons-nous à gagner ? En lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes. » Verset 14. Comme je l'ai dit, ces mauvais bougres ont observé certaines ordonnances de la loi et ont mené le deuil, littéralement marché en noir à cause des péchés que Malachie leur a reprochés. Mais ils n'ont fait que tremper dans le légalisme, s'imaginant qu'en suivant quelques rites, ils seraient en règle avec l'Éternel. Contents d'eux-mêmes, ils s'attendent donc à recevoir des bénédictions. Mais comme il ne s'est rien passé, ils accusent Dieu d'être injuste, de ne pas tenir ses promesses, et vont jusqu'à dire que lui obéir est futile. C'est sûr que ça ne sert à rien d'accomplir certains actes pieux si on est animé d'un esprit rebelle. L'autosatisfaction des Israélites impies va de pair avec leur idée du mérite par les œuvres. Cet esprit pharisaïque consiste à suivre certaines règles à la lettre près et à ne pas s'adonner à certaines autres activités dans le but d'être et de paraître juste devant Dieu. Les pharisiens du premier siècle manifestaient une très grande rigueur dans leur façon de vivre, mais c'était pour se pavaner, pour s'élever à leurs propres yeux et aux yeux des autres. Leur démarche pieuse était de l'orgueil à l'état pur. Il est évident qu'un tel comportement est aux antipodes de la justice intérieure que Dieu demande. D'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, Jésus a prononcé des paroles cinglantes au peuple. Il leur a dit « Si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dieu veut que je me conforme à sa volonté, mais mon obéissance doit venir d'un élan du cœur, et je n'obéis pas pour paraître juste, mais pour manifester par ma conduite la justice de Dieu. » Sous la Nouvelle Alliance, le croyant a l'avantage de posséder le Saint-Esprit qui lui permet de marcher en nouveauté de vie. L'apôtre Paul écrit « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » Je continue le texte de Malachie. « C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Verset 15. L'ancienne version grecque dit « Ils résistent Dieu et pourtant ils sont en sécurité », ce qui revient au même. Les arrogants sont les païens qui vivent en Palestine. Ils sont ennemis du peuple de Dieu, mais prospèrent. Non seulement ils font ce qui est mal, mais ils ont du succès dans ce qu'ils entreprennent, et quand ils provoquent Dieu, ils échappent à toute rétribution. Jaloux des païens, les Israélites impies murmurent contre Dieu. Ils se plaignent et répètent ce qu'ils ont déjà dit. Quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel, il a plaisir à ces gens-là, ou bien encore, où est le Dieu de la justice? En d'autres mots, ces Israélites osent déclarer que seuls les païens, les libertins, sont heureux en ce bas monde. Il est bien vrai que souvent, ces gens-là possèdent des richesses, une belle famille et un nom honorable. Dans une prière, le roi David écrit « Délivre-moi de ces hommes par ta puissance, Éternel. Que des hommes de ce monde je sois délivré, que leur seule part soit en cette vie, oui, qu'ils soient gavés, eux et leurs enfants, de ce que tu leur réserves, qu'ils en soient tout rassasiés et en laissent à leurs descendants. » En jalousant le bonheur des païens, les Juifs mécontents dont parle Malachie deviennent arrogants eux-mêmes. Or, et comme le prophète le souligne plus loin, les impies, qu'ils soient païens ou juifs, seront jugés. Il écrit « Car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et il n'en restera ni rameau, ni racine. » Je continue le texte de Malachie. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Verset 16. Face à ce complot des Israélites infidèles, Malachie établit un contraste en attirant notre attention sur une autre association, celle des Israélites fidèles qui ont créé un mouvement pour la défense de l'Éternel. Eux aussi se consultent sur la situation présente, mais dans un tout autre esprit. Il constitue ce petit reste composé d'hommes pieux du peuple qui a une crainte révérentielle de l'Éternel. Ils se détachent consciemment de la masse incrédule dont ils ne veulent pas faire partie. Ils se rencontrent pour se fortifier mutuellement dans leur confiance en Dieu. Ce qu'ils disent ne nous est pas révélé, cependant leur conversation est agréable à Dieu. Et on peut être sûr que ces hommes pieux partagent la même foi en l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, qui demeure fidèle aux promesses qu'il a faites à son peuple. Il est possible que les Israélites pieux se soient opposés ouvertement à ceux qui murmurent et qu'ils aient averti les autres de ne pas se joindre aux mécontents. Ce n'est pas que ces braves et fidèles Israélites ont des œillères et ne voient pas le bonheur des méchants, mais ils ont la même attitude humble que le prophète Jérémie qui a dit « Tu es juste, Éternel. Comment donc oserais-je contester avec toi? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi les infidèles vivent-ils si tranquilles ?» Les hommes pieux ne mettent pas en doute la justice de l'Éternel. Pour eux, tout ce que Dieu fait est bien. Une telle perspective devait être difficile à embrasser parce que les Juifs vivaient sous un système composé de récompenses et de punitions temporelles selon qu'ils respectaient ou pas les clauses de la loi. Ce qui est vraiment d'un grand intérêt pour nous est que l'Éternel est attentif aux propos des hommes pieux. Tout comme il entend les méchantes accusations que les Juifs mécontents portent contre lui, il recueille avec soin les paroles pieuses de ses fidèles. Il les écoute chacun en particulier. Je continue le texte. Alors, on a écrit un livre devant lui, devant l'Éternel, pour conserver le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Verset 16. L'Éternel n'a pas la mémoire courte. Il est évident qu'il n'a pas besoin de tout mettre par écrit, comme nous quand on atteint un certain âge. Les Israélites qui restent fidèles à Dieu contre vents et marées ont leur nom écrit dans un livre pour qu'ils soient préservés à tout jamais, pour leur propre bénéfice, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Cette image vise donc à les rassurer. Le livre dont il est question ici est littéralement un livre de souvenirs. Il fait penser au livre de mémoire des rois de Perse, où étaient consignés les noms de tous ceux qui avaient rendu un service signalé au roi et à l'État. Cette image du livre rappelle également les chroniques des rois d'Israël qui gardaient le souvenir de leurs actions. Je lis un passage. Les autres faits et gestes de Salomon, toutes ses réalisations et sa sagesse, sont cités dans le livre des Annales de Salomon. Tout au long des Écritures, on voit que Dieu tient des comptes et il est plusieurs fois question de livres qui ont un rapport avec notre vie ici-bas, nos œuvres, bonnes et mauvaises. C'est un peu comme le livret scolaire qui accompagne chaque écolier. À côté des notes, il porte les appréciations des professeurs qui peuvent aller de très bien à très mal, et de mon temps, je devais le faire signer tous les trimestres. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean rapporte que Jésus, parlant à l'ange de l'une des sept églises, dit « Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. » Il semble bien que tous les croyants ont leur nom écrit dans le livre de vie. Mais ce n'est pas tout. Les bonnes œuvres qu'ils ont réalisées pour Dieu sont également consignées quelque part, soit dans le livre de vie à côté de leur nom, soit dans d'autres livres. Les mauvaises actions des hommes figurent elles aussi dans des livres, mais uniquement pour ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ. Les croyants ne sont pas concernés par ces livres-là parce que toutes leurs fautes ont déjà été purgées à la croix. Cependant, ils devront quand même comparaître devant le Seigneur pour un règlement de compte de la dernière heure, une mise au point en quelque sorte avant d'entrer dans le royaume des cieux. En effet, l'apôtre Paul écrit « Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ » et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Le roi David écrit, « Toi, tu tiens compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Dieu sait tout. Il connaît nos circonstances, nos soupirs, nos joies et nos peines, et il va s'en servir pour faire son évaluation finale. Il est en effet réconfortant de savoir et de se rappeler que Dieu tient compte de la façon dont je mène ma vie et des sacrifices que j'ai pu faire pour sa gloire, surtout si je souffre pour lui. Une partie de ma vie se déroulera devant mes yeux comme si c'était un film. Je verrai toutes les bonnes œuvres que j'ai faites, ainsi que les fautes que je n'ai pas reconnues comme telles devant Dieu. Par contre, les péchés que je lui aurai avoués n'apparaîtront pas. » Le prophète Daniel assista en vision au jugement des morts et il vit alors que des livres furent ouverts. Il écrit « Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Plus tard, Daniel a reçu la visite de Jésus-Christ sous la forme de l'ange de l'Éternel qui lui a dit « En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. » Il s'agit très probablement de ce livre appelé « Livre de vie ». L'apôtre Jean a eu une vision très similaire à celle de Daniel. Il écrit « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. Qu'on y croit ou pas, le jugement est à la porte. Et qu'on soit croyant ou pas, Dieu va régler ses comptes avec chacun d'entre nous. »